Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est parti, 2 heures d'infos RTL Soir. Avec à la une, le retour plus compliqué que prévu aux 90 km/h sur les routes. Ce sont les présidents des départements qui pourront prendre cette décision en vertu de la loi mobilité. Mais voilà, selon les recommandations du Conseil national de la sécurité routière, eh bien la plupart des axes ne pourraient pas être concernés par ce relèvement de la vitesse maximale et un retour à la situation initiale. Alors y a-t-il de l'hypocrisie ou un double jeu du gouvernement? C'est ce que pense le président du Conseil départemental des Yvelines. Pierre Bédier sera l'invité d'RTL Soir à 18h20. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et les autres titres?
Les trois quarts du pays en alerte canicule. Record de température attendu cette semaine au nord de la Loire, retour du plan canicule et de la circulation différenciée demain à Paris et à Lyon. Près de Rouen, l'agression raciste a été commise par un déséquilibré. Le suspect est actuellement entendu par les policiers pour le meurtre d'un Guinéen vendredi soir. Leclerc contre-attaque face au gouvernement qui réclame une amende maximale de 117 millions d'euros pour des pratiques commerciales illégal. Le distributeur va saisir la Cour de justice européenne. Incroyable découverte au large de Toulon. 50 ans après avoir disparu des écrans radars, le sous-marin, la Minerve, a finalement été retrouvé. Un soulagement pour les familles des 52 victimes. Et puis le Tour de France, journée de repos. À moins d'une semaine sur les Champs-Élysées, Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot commencent à y croire sérieusement. La Bourse de Paris clôture en légère hausse de 0,26%. Le CAC 40 affiche 5567 points. Les courses à Dieppe, il fallait jouer le 15, le 5, le 8, le 9 et le 12.
Après le journal d'Alexandre et après l'invité d'RTL Soir, ce sera le plateau télé d'Isabelle Mohony-Bosque à 18h30. Le club Jalabert, parce que même un jour de repos, Christophe Paco et Laurent Jalabert sont sur le pont, d'autant qu'ils vont recevoir tout à l'heure le patron du Tour, Christian Prudhomme. Soyez donc en rendez-vous à 19h, la deuxième édition d'RTL Soir, puis la tête dans les étoiles à bord de la navette aujourd'hui. Et ensuite, comme chaque soir de la semaine sur RTL, on refera le monde. Le temps, Anthony Kaczmarek, la canicule s'étend.
Effectivement, 59 départements sont maintenant placés en vigilance orange canicule par Météo France, du sud-ouest à l'Île-de-France et aux frontières de l'Est. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il fera le plus chaud demain. Dès le réveil, on aura 21 à Paris et à Lyon, 24 à La Rochelle et 26 pour Toulouse. En cours de journée, la barre des 35 degrés sera dépassée sur les trois quarts du pays, 35 à Lille et Marseille, 38 à Paris et Reims, 40 à Toulouse et 42 à Bordeaux, le tout sous un soleil de plomb avec peut-être quelques ondées entre la Bretagne et la Vendée.
Merci Anthony, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Une canicule courte donc, mais qui s'annonce exceptionnellement intense.
Oui, ça devrait s'arranger à partir de vendredi prochain. Pour l'instant, 59 départements sont placés en vigilance orange pour cette vague de chaleur qui va remonter vers la moitié nord, donc à partir de demain. Cet après-midi, c'est le centre-est et le sud-ouest qui ont particulièrement souffert des fortes températures. À Bordeaux, Philippe de Maria, tous les moyens sont bons pour tenter de se rafraîchir.
Oui, la grande surface climatisée est un moyen comme un autre d'échapper au soleil écrasant de ce tout début de canicule.
Mais je vais dans les grands magasins, il y a les clims, et puis en fin de compte, puis j'en ai besoin pour faire du ravitaillement parce que nous partons demain.
Mais c'est une solution qui a ses limites.
Oui, mais on ne peut pas y rester toute la journée, malheureusement. Je me vois mal pique-niquer sur le tapis d'entrée.
Et reste l'ultime point de fraîcheur, celui qui figure sur de nombreuses images évoquant Bordeaux, le miroir d'eau, sur les quais en pierre sombre de la taille d'un terrain de foot et qui crache de l'eau fraîche régulièrement. C'est devenu la plage du centre-ville, très fréquentée aujourd'hui par les familles.
Ils avaient à peine un peu chaud, ouais, mais il manque un peu d'air. Ils pataugent, ils sautent, ils se mouillent. Ils ont l'autorisation pour une fois, aucune contrainte.
Mon petit frère, ben, il est trop. Lui, il est assis dans l'eau, il est plongé. Je nage, on dirait.
Pourquoi ça fait du bien de se mouiller comme ça?
Parce qu'il fait chaud.
Allez, une petite photo, les enfants. Allez, un petit souvenir.
Et il devrait faire demain 42 degrés à Bordeaux, record jamais atteint dans la capitale aquitaine.
À Bordeaux pour RTL. Pour cette deuxième vague de chaleur en moins d'un mois, on prévoit des records de température aussi dans les régions au nord de la Loire demain et particulièrement jeudi. 42 degrés également attendus à Paris, ce serait un record. Paris qui vient d'activer son plan canicule de niveau 3 sur 4 avec la mise en place de salles rafraîchies pour accueillir les personnes fragiles, notamment les seniors, les personnes en situation de handicap, les enfants et les sans domicile fixe. Mais la ministre de la Santé Agnès Buzyn prévient, même les personnes en bonne condition ne seront pas épargnées.
Il y a eu le décès d'une personne qui a conduit pendant des heures sans boire et qui a fait une hyperthermie dans sa voiture. Nous avons des travailleurs qui étaient exposés à la chaleur et qui ont fait des efforts. Et nous avons des sportifs qui ont fait du vélo en pleine chaleur et qui ont fait évidemment une hyperthermie maligne. Enfin, nous avons eu beaucoup d'excès de noyade, notamment par hydrocution, donc par malaise, de personnes qui ont plongé brutalement dans de l'eau froide. Et ça, c'est vraiment la typologie des accidents que nous observons chez les personnes saines, raison pour laquelle je souhaite le communiquer pour éviter que quelqu'un se mette en risque.
Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, au micro RTL de Sophie Jousselin. Conséquence également de la canicule, l'air sera encore plus pollué en Ile-de-France à partir de demain. La circulation différenciée est mise en place. Seules les vignettes critères 0, 1 et 2 pourront entrer dans Paris. Un dispositif qui est également mis en place dans la région lyonnaise.
Près de Rouen, la garde à vue du meurtrier présumé d'un jeune chercheur guinéen a été suspendue.
Un meurtre raciste selon les proches de la victime. Moins de 3 jours après les faits, le suspect avait été interpellé ce matin. Âgé de 29 ans, il présente des antécédents psychiatriques, placé sous curatelle renforcée. Son audition a été momentanément interrompue, Julien Caillard.
Oui, le suspect, dont la famille est originaire de Turquie, a été transféré à l'hôpital psychiatrique du Rouvray pour y être examiné. Les médecins ont considéré que son état n'était pas compatible avec la garde à vue. Jean-Claude Loy, le premier adjoint au maire de Cantleux.
Cet acte nous paraît être un acte isolé, avec un individu qui aurait malheureusement des troubles psychiatriques. Cet acte odieux a créé une forte émotion parmi nous. On ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que nous soyons tous ensemble dans une attitude de paix.
Cet après-midi, l'ambassadeur de la Guinée en France, Amara Camara, est arrivé sur place pour présenter ses condoléances à l'épouse de Mamoudou Barry, mais aussi dire l'émotion et la colère de la Guinée.
La cruauté de l'acte est inexcusable. Le pays tout entier est dans la douleur. C'est un acte raciste qui est condamnable au plus haut point. Ça fait très longtemps que je vis dans ce pays. J'ai vu le racisme grandir et se banaliser. En France et partout en Europe.
Une marche blanche en hommage à Mamoudou Barry aura lieu vendredi à Rouen. Elle partira de l'université à 15h.
Julien Caillard près de Rouen pour RTL. À Montpellier, un jeune dans un état grave après avoir tenté de porter secours à deux femmes qui se faisaient importuner. L'agresseur l'a poignardé à plusieurs reprises avant de prendre la fuite. La victime est toujours hospitalisée mais son état s'est stabilisé.
On en arrive maintenant au dossier Leclerc. Parce que le groupe Leclerc dénonce un acharnement de l'État français.
Le ministère de l'économie veut frapper et frapper fort. La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher a réclamé ce matin sur RTL une amende maximale 117 millions d'euros contre l'enseigne de grande distribution accusée de pratiques commerciales totalement inadmissibles. Armel Lévy, le groupe Leclerc, a répliqué cet après-midi. Il annonce vouloir saisir la Cour de justice européenne.
Oui, on assiste à un véritable bras de fer entre d'un côté l'État qui accuse le mouvement Leclerc d'avoir délocalisé chaque année une part plus importante de ses négociations commerciales en Belgique pour faire passer à ses fournisseurs des baisses de tarifs illégales en France. L'État chiffre à 39 millions d'euros les sommes indûment perçues par Leclerc sur le dos de ses fournisseurs, avec à la clé des conséquences sur l'emploi pour ces entreprises et les producteurs de la filière. Et de l'autre, on a le groupement Leclerc, premier distributeur en France, qui pèse près de 40 milliards d'euros et qui dénonce un acharnement de l'État contre sa politique des prix bas pour les consommateurs. Il faut dire que Leclerc n'en est pas à sa première assignation, c'est même la 7e en 14 ans. Mais aujourd'hui, l'amende réclamée atteint des sommets 117 millions d'euros. Leclerc qui riposte et qui veut donc attaquer l'État devant la Cour de justice de l'Union européenne, qualifiant l'attitude des pouvoirs publics français de discriminatoire. Mais pour l'instant, la balle est dans le camp du tribunal de commerce de Paris. Le juge devra d'abord décider d'appliquer ou non cette amende record de 117 millions d'euros.
Les précisions signées Armel Lévy pour RTL. Entre 360 et 400 euros pour les familles modestes, le ministère des Solidarités annonce que l'allocation rentrée scolaire sera versée le 20 août prochain à 3 millions de foyers. Sous condition de ressources, son montant revalorisé de 0,3% cette année dépend de l'âge des enfants scolarisés.
Sans doute une éclaircie en vue pour François de Rugy. En tout cas, le rapport d'enquête de l'Assemblée nationale doit être rendu demain.
Un rapport dont les conclusions ont déjà largement fuité dans la presse ces derniers jours et qui donne raison à l'ancien ministre de la Transition écologique. Que ce soit pour ses dîners luxueux ou pour les travaux dans son appartement de fonction, rien d'illégal a priori. La députée LREM du Tarn, Marie-Christine Verdier-Jouclas, regrette une démission qu'elle juge trop rapide.
Ça prouve simplement que François de Rugy a été sincère et honnête quand il s'est défendu par rapport à assez de points. Et François de Rugy a été le premier aussi, quand il a pris son poste de président à l'Assemblée nationale, pour faire quoi ? Pour diminuer de plus d'un tiers les frais de déplacement, pour diminuer de plus d'un tiers tous les frais de son cabinet au niveau de l'Assemblée nationale, et de plus de 15% ses frais de représentation. On est face à un homme qui, quand il dit qu'il faisait attention à l'argent public et qui, effectivement, faisait tout pour réduire les dépenses, moi, je le crois tout à fait sincère dans sa volonté. Quand on n'a rien fait d'illégal, mais qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent choquer nos citoyens, et je peux le comprendre, elle est où la limite ? Moi, je me pose la question. Mais il faut arrêter aussi quand même de faire de l'acharnement.
Est-ce que son départ pose, selon vous, un problème démocratique ?
On peut se poser la question, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la presse qui devient procureur et les citoyens qui sont les jurys ? On peut se poser la question.
La députée de la majorité Marie-Christine Verdier-Jouclas avec Vincent Derosier pour RTL. Emmanuel Macron répond à Nicolas Hulot, l'ancien ministre de l'écologie, qui a appelé ce matin les parlementaires à avoir le courage de dire non au CETA lors du vote qui est prévu demain. Eh bien, le chef de l'État estime au contraire qu'une ratification de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada irait dans le bon sens.
RTL Soir, 18h10, la suite du journal. Alexandre de Saint-Aignan, Vincent Parisot.
Et donc Alexandre, les entrailles de la Méditerranée viennent de révéler un secret jusqu'ici bien gardé.
Le voile est en train de se lever sur le mystère de la Minerve, ce sous-marin disparu il y a un peu plus de 50 ans au large de Toulon avec ses 52 membres d'équipage. L'épave n'avait jamais été localisée jusqu'à ce matin. Les familles des disparus avaient lancé un appel en octobre dernier pour que les recherches soient reprises. Eh bien, elles ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi rapide, Étienne Baudu.
Ah oui, 8 mois seulement, pourrait-on dire, de recherche depuis décembre dernier, de recherche théorique d'abord, et 12 jours à peine de recherche sous-marine. C'est hier soir vers 19h que le vice-amiral d'escadre Charles-Henri Duché, le directeur des opérations, reçoit la photo qui confirme la découverte, une photo du kiosque, la partie haute du sous-marin.
Et sur ce morceau, on voit les lettres en rouge, M-I-N-E, et en dessous le S qui était le début de son numéro de coque. M-I-N-E, il n'y a pas d'autre sous-marin type Daphné qui commençait par M-I-N-E, donc on est vraiment certain qu'il s'agit de la Minerve.
Alors au fond, le sous-marin repose en 3 parties distantes de 300 mètres, l'avant et le kiosque, l'arrière et au milieu des débris plus petits. Et ce sont ces débris que les sonars du navire de l'Ifremer puis ceux du navire américain Seabed Constructor ont détectés sur un plateau assez plat par 2370 mètres de fond. Ensuite, ce sont des drones sous-marins équipés de caméras qui ont été envoyés au fond pour photographier les débris et confirmer l'identité de l'épave. Alors les drones sous-marins continuent à photographier l'épave, mais selon le directeur des recherches, il ne sera pas possible de déterminer les causes du naufrage. Quoi qu'il en soit, le Minerve restera au fond comme une sépulture maritime. Les familles, tellement émues et soulagées, se rendront ensemble pour une cérémonie sur les lieux de l'accident en septembre probablement.
Étienne Baudu à Toulon pour RTL.
RTL Tour de France 2019.
Repos aujourd'hui sur le Tour pour les couleurs qui reprennent évidemment des forces après les Pyrénées et avant d'attaquer les Alpes.
On nous avait promis un Tour de France très ouvert. Eh bien, tous les espoirs sont permis pour les deux Français. Thibaut Pinot qui fait un retour en force et Julien Alaphilippe qui se dépasse même s'il craint lui-même d'être à bout de force à moins d'une semaine de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Mon maillot jaune ne tient plus qu'à un fil, a-t-il déclaré ce matin. Et pourtant, pour la première fois depuis Bernard Hinault, en 1985, un Français pourrait bien remporter la grande boucle, Quentin Vinet.
Oui, mais Thibaut Pinot ne se laisse pas impressionner par la quinzaine de caméras braquées sur lui ce matin pour recueillir ses impressions.
Si cette pression m'écraserait, je serais pas là, je pense. C'est plutôt beau signe. J'ai appris à gérer tout ça et je suis plus comme avant où tout m'embêtait un peu, donc je suis content d'être là. Ouais.
Content, souriant, détendu également, sauf quand les questions sont en anglais. Il faut lui traduire, car maintenant les journalistes étrangers se penchent de plus près sur les résultats du franc-comtois, vainqueur au Tourmalet, deuxième au Prat d'Albis, quatrième au Général et désigné comme un des favoris.
Non, je me sens encore pas le favori, et loin de là. Mais c'est sûr, sur les 2 derniers jours, j'étais peut-être le plus fort. Mais le Tour, c'est jusqu'à dimanche, donc il va passer encore beaucoup de choses.
Comme tout le monde dans son équipe, Thibaut Pinot parle de podium, mais jamais de victoire finale. Les Ineos disent qu'il a la pression de tout un pays. Lui répond qu'il a de bonnes jambes.
Par chance, cette année, je suis au top de ma forme, et ça tombe bien sur le Tour, parce que c'est un Tour qui est magnifique, donc voilà, moi je prends vraiment du plaisir cette année sur le Tour.
Thibaut Pinot semble entouré d'ondes positives. La minute 40 perdue à Albi est oubliée. Le grimpeur de 29 ans promet d'attaquer encore dans les Alpes et ne craint